Je reçois Michel Mialo. Bonjour Michel.
Bonjour Chloé.
Alors je vous reçois aujourd'hui pour parler de l'un de vos projets et exploits que vous avez réalisés. Vous êtes donc atteinte de polyarthrite rhumatoïde, vous avez 71 ans et vous avez pris votre vélo et pédalé pendant 50 jours de Tours jusqu'à Malaga en Espagne. Et de ce voyage, vous avez écrit un livre et c'est la raison de votre venue. Alors vous êtes actuellement à la retraite, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu votre parcours de vie avant de rentrer plus profondément dans le sujet ?
Mon parcours de vie, alors pour commencer j'étais conductrice de bus à Fil-Bleu. Je n'ai pas travaillé dans cette entreprise, je me suis amusée. Pendant 20 ans, j'ai commencé à travailler en 2000 quand j'ai été à la retraite et que je me suis mise à la retraite et que j'ai commencé à écrire et à m'occuper des écrivains de mon éditeur. Voilà.
Alors, vous avez écrit un livre qui a pour titre « Mimi et Coquelicot, un défi contre la polyarthrite ». Ce livre trace donc votre voyage, vos pensées durant ce voyage. Pourquoi avoir voulu communiquer sur votre projet et votre maladie par le biais d'un livre ?
Ben d'abord, j'ai entrepris ce défi pour faire un pied de nez magistral à cette polyarthrite invalidante qui d'ailleurs n'est plus du tout invalidante depuis parce que je me suis auto-guérie. Comme quoi, les miracles peuvent exister. Mais plus encore, c'est aussi pour effacer les rides qui commençaient à poindre dans mon esprit, car le plus important dans la vie, c'est de supprimer les rides de notre âme et au diable celles qui arrivent sur le visage. J'ai toujours eu une énergie mais débordante depuis ma plus tendre enfance. Là, j'ai franchi les Sierras, j'ai côtoyé les déserts brûlants sous 40 degrés, j'ai fait plein de choses comme ça et je pense que j'ai cette énergie qui est en moi, même parfois elle peut faire peur à certaines personnes. Aux messieurs en particulier, mais ils ont tort parce que je peux leur en donner de l'énergie. Et c'est vrai que pendant ces 1980 kilomètres, j'ai côtoyé des personnes ayant de l'amitié mais débordant de la générosité infinie. Elles m'auraient donné leur seule chemise, quoi. Et surtout en Espagne, pas trop en France, hein. Mais à cause de la Covid, je ne pouvais même pas les prendre dans mes bras ni les embrasser, moi qui déborde d'affection, de tendresse. J'étais malheureuse comme les pierres. Je pleurais à chaque fois que je les quittais. Sachant que je ne la reverrai jamais, en fait, quoi. Mais j'ai toujours été au bout de ce que j'avais entrepris, à mes risques et périls, d'ailleurs. Mais j'y arrive toujours coûte que coûte. Parfois, ça me retombe un peu sur le coin du nez. Mais oser, c'est important d'oser. C'est faire un grand pas dans son évolution, oser. La détermination personnelle et le courage d'oser, c'est primordial pour avancer. Surtout sur un vélo.
Et oui, vous avez bien raison. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait de pouvoir poser vos mots sur un papier et de réaliser justement le projet incroyable que vous avez fait ?
Déjà, ça m'a permis de ne pas l'oublier et surtout de le partager avec des gens qui ont aussi, eux, des problèmes de santé. Ça peut être autre chose qu'une polyarthrite, hein. Ça peut être, je ne sais pas, moi, j'ai aucune idée. Des maladies, il y en a qui ont des cancers, qui ont fait aussi des jolis parcours à vélo, hein, ou à pied même, hein. Et c'est surtout, voilà, c'est ça, c'est pour leur faire partager et leur dire, la vie, c'est plein de petits bonheurs, mais allez-y, foncez, vous allez voir, c'est la liberté. Voilà, c'est la liberté. Sur un vélo, on a la liberté. J'ai pas arrêté de chanter. Mal, ah, ça, très mal. Ça, je vous le confesse. Mais j'ai toujours chanté à tue-tête. Et puis les paysages que j'ai traversés, c'était des paysages, mais merveilleux, c'était des paysages, je me revois encore quand j'en parle, c'était des paysages, mais de cartes postales, quoi. C'était vert, c'était bleu, c'était de toutes les couleurs, c'était ocre. J'ai rencontré les animaux, j'ai beaucoup eu de contact avec les animaux, les chamois, il y a même des chamois, il y a des gens qui se marrent quand je leur raconte ça, mais je me suis perdue dans Medinaceli, dans le désert d'un village médiéval. Et ben, je me suis perdue rarement, hein. Je me perds dans le métro à Paris, mais là, je ne me perdais pas, mais là, pour une fois, je m'étais perdue. Et puis, il y avait 40 degrés, j'avais plus d'eau dans mes bouteilles, j'avais très soif, j'avais plus de contact téléphone, il n'y avait plus de réseau, il n'y avait plus rien. Je pleurais, j'en fais l'aveu, je n'ai pas honte de le dire, je pleurais, mes surlunettes, je les ai enlevées, je m'essuyais les yeux. Et puis j'ai dit, je vais assécher là, quoi. Et puis tout à coup, j'ai vu deux chamois, ou peut-être deux isards, ils étaient petits, deux isards qui me regardaient. Puis tout d'un coup, je les ai vus faire demi-tour. Puis j'ai eu l'instinct de les suivre. Comme ça, j'étais à côté d'eux, je les suivais, j'étais dans une autre dimension parce que je ne souffrais même plus, quoi. Et ils m'ont ramené au bon point de départ, en fait. J'étais perdue. Et ils m'ont ramené à mon point de départ. Tout d'un coup, j'ai reconnu mon virage. Je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas tourné ici ? Et là, j'ai tourné la tête et les isards se sont barrés dans la montagne. Je ne les ai jamais revus. Enfin, si, j'en ai revu d'autres, mais je ne pense pas que ce soit les mêmes. J'ai eu des contacts avec les sangliers. On dit que les sangliers sont méchants, que nenni. J'étais dans ma chambre d'hôtel un soir et puis je suis descendue, il faisait chaud, j'étais du côté de Tranco et dans la Sierra des Cazorla. Et je suis descendue dans la montagne, il y avait une montagne de pins, je me souviens, là, et j'étais là en train de prendre le frais. Tout d'un coup, j'écoutais grogner une horde, il y en avait 3-4 de sangliers qui arrivaient vers moi. Ah, qu'est-ce que je fais ? Je suis remontée dans ma chambre, j'ai été chercher du pain dur qui me restait. Je suis redescendue, les sangliers étaient toujours là. Et on a mangé ensemble, je leur ai donné du pain, puis personne, il n'y en a aucun qui m'a sauté dessus. Je ne sais pas, j'ai l'impression que j'avais soit une protection, ou soit que les animaux m'aimaient bien, quoi. Mais comme je les aime, ils doivent m'aimer. Les sangliers, j'ai vu les cerfs, j'ai vu des lapins, les lièvres, les renards qui vous regardent aussi. Je m'arrêtais avec mon vélo, je voyais le renard qui me regardait. Le temps que je sorte l'appareil photo, Goupil était reparti déjà. Mais j'ai eu beaucoup de contacts aussi, ben oui, avec les Espagnols. Vous voyez, je vous parle beaucoup de l'Espagne, pas trop de la France. J'ai traversé la France jusqu'à la frontière. C'était banal, j'ai passé un petit peu inaperçu. Mais dès lors que j'ai passé la frontière, alors là, c'était formidable. Les gens étaient sympas. Même la policia. C'est la police qui m'a reçue parce que je ne savais même pas que j'étais en Espagne, en fait. C'était un tout petit village. Et quand ils m'ont vu arriver avec mes drapeaux espagnols d'un côté, français de l'autre, mes chaussettes espagnoles et françaises et tout ça, ils m'ont dit, ils parlaient très bien le français. Où vous allez comme ça? Ben, je dis, voilà, je m'en vais à Malaga. Oh, ils ont levé les bras en l'air. Ils disent, on fait des photos et tout. Faudra parler de moi dans votre livre. Et puis, en effet, j'en parle. Et dès lors que je suis montée l'école, c'était merveilleux, quoi. Les gens m'applaudissaient, les gens parlaient avec moi. Ils m'ont nourri. J'ai pas payé grand-chose en nourriture. Quand je me perdais, le premier indigène que je rencontrais, je lui demandais ma route parce que je n'avais pas de GPS, hein, j'avais tout sur un petit papier. Quand il pleuvait d'ailleurs, des fois c'était à moitié effacé, donc je demandais ma route. Ce n'était pas un village fantôme, mais ma foi, je frappais à une porte. Je ne comprenais pas grand-chose à ce qu'ils me racontaient avec leur accent, mais ça nous permettait de rire, de manger, puis de me boire à l'œil.
Donc vous avez fait des rencontres et des liens incroyables.
Ah oui, j'ai fait de très belles rencontres et c'est vrai que ça me faisait vraiment de la peine de ne pas pouvoir leur donner que mon gracias, que besitos, baiser et puis adios, quoi, parce que je ne pouvais rien faire d'autre, quoi.
Mais après, que vous êtes compris justement d'une autre manière qu'avec la langue.
Je pense, oui, mais bon, la langue, je me débrouille un petit peu. Une chance d'ailleurs, parce que je suis arrivée à Motril dans le sud, là, quand j'ai côtoyé la mer pour la première fois. Motril, c'est une ville, on dit que c'est la costa tropicale, c'est chaud et humide. Alors moi, avec ma maladie, j'avais le pied qui avait triplé de volume. Et je ne pouvais pas trop pédaler pendant 3-4 jours. Il fallait que je demande à l'hôtelier de me remettre. Je disais, oh, por favor, señor, una otra noche. Tiens, je parle espagnol avec l'accent italien. Donc, je lui disais, allez, encore une nuit. Puis au bout de la quatrième nuit, avec la cortisone, j'ai pu repartir. Il y a des gens qui roulent au gasoil, à l'essence, mais moi, je pédalais à la cortisone vers la fin parce que j'arrivais plus à avancer. Mes circuits étaient de 80 km au début, et puis vers la fin, j'en faisais plus que 30, 20, 25.
Et donc, justement, sur votre quatrième de couverture, vous dites « Il n'y a aucune raison que ce soit cette maladie qui me commande ». Donc, comme vous l'avez dit juste avant, vous avez guéri de cette maladie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ?
Guérir, je ne dirais pas qu'elle est guérie, mais bon, elle est endormie. Elle est endormie, elle se réveille que si on me vexe, si on me fait du mal, elle peut se réveiller un petit peu. Mais si personne ne m'embête, si je suis bien dans ma peau et heureuse, je n'y pense même plus, quoi. Le traitement, pendant tout le trajet, je ne l'ai même pas pris. Ça faisait déjà un an que je ne le prenais plus, je n'ai plus rien du tout. Bon, là, j'avais quand même emmené de la cortisone parce que je savais que j'allais peut-être souffrir un petit peu vers la fin. Mais ce n'était pas les kilomètres qui me faisaient peur, parce qu'en arrivant à Almeria, où il y a tous les plastiques, là, avec les rats crevés sur la route, mon Dieu, quand je pense qu'on tournait des films magnifiques dans ce coin-là, et puis maintenant, c'est vraiment un déchet, quoi, c'est l'horreur. Et bien, j'ai repris mon vélo, j'ai dit, j'ai oublié d'aller à Guadix, c'était 70 kilomètres au-dessus, et je suis remontée à Guadix pour voir les cheminées blanchies à la chaux, sur des collines ocres. C'est magnifique. Et là, il y a un monsieur qui m'a fait visiter sa maison. Et puis après, je suis redescendue sur Almeria. Mais là, j'ai filé sur avant d'arriver à Malaga, j'ai fait quelques villes quand même. Où j'ai rencontré aussi des gens super sympas. Sauf dans un endroit où mon vélo était rangé dans une discothèque qui ne fonctionnait plus, bien sûr, avec la Covid. Puis le lendemain matin, il m'avait dégonflé mes pneus. C'est pas très sympa, parce que c'était à dimanche. Et je me suis dit, c'est ma dernière étape à Malaga. J'étais attendue à Ben Almadena, à 20 km au-dessus de Malaga. Et j'ai dit, là, je vais pas pouvoir y aller. Ils vont m'attendre un moment, quoi. Et puis, en fait, je me suis aperçue que c'était simplement dégonflé. Mais ça, c'était gonflé de me le faire.
Effectivement, oui.
Et puis, sinon, j'ai pas eu vraiment d'ennui tout le long du parcours. Si peut-être un jour où je m'étais trompée, je cherchais une maison d'hôte dans la montagne. Et puis, j'ai vu un portail ouvert, je suis rentrée. Et puis là, il y avait un vélo par terre et tout ça. Puis tout d'un coup, le portail s'est fermé derrière moi. Un grand portail en métal fermé. prisonnière dans la propriété. Puis un bonhomme qui arrivait, il grognait. Il parlait pas, il grognait. Il grognait, c'est pire que les sangliers, lui. Il grognait en espagnol que la policia, je comprenais que la policia, en fait. Hein. Et puis, je dis, va pas m'ouvrir, qu'est-ce que je fais là? Alors moi, je lui faisais avoir avec ma main que je voulais déguerpir. Soy perdido, je suis perdu. Puis au bout d'un moment, encore, quand il m'a parlé de la policia, il a quand même ouvert le portail, parce qu'il a bien vu que j'allais pas y cambrioler sa maison. Il m'a ouvert le portail sur un mètre, j'ai pu partir, et là, il a donné un coup de pied dans mon vélo. Et ça, je ne lui pardonnerai jamais d'avoir touché à Coquelicot, qui est donc mon vélo que j'adore. Et puis, j'ai pas perdu au change, parce que je suis partie en chantant Le Vagabond. Je suis le vagabond, le marchand de bonheur. Là, je ne vais pas vous le chanter, parce que les tourangeaux, ils vont arrêter la radio. Et donc... J'ai trouvé plus loin un hôtel magnifique où les gens m'ont reçu à bras ouverts. Ils m'ont mis de la musique, du piano dehors avec des lanternes. Ils m'ont donné à boire, ils m'ont donné à manger. Je me dis, mais le paradis, c'est ici. Mais c'est là le paradis, c'est ça le paradis. Je me suis dit, vraiment, c'est ça le paradis. Et le lendemain, quand je suis repartie pour affronter la Sierra Nevada, il pleuvait. Et là, je me suis arrêtée dans un hôtel où j'ai fait mon premier malaise. J'en avais pas fait encore, hein. J'étais déjà rendue à la Sierra Nevada. J'étais de toutes les couleurs, verte, enfin blanche, et tout ça. Et puis le cuisinier, quand il a vu ça, il m'a fait un bon petit plat français avec de la viande rouge et puis des légumes. Mais je suis repartie le lendemain dans la Sierra Nevada avec juste mon cuissard d'été, mes baskets et mes chaussettes. J'avais quand même mis un pull et mon blouson parce qu'il y avait 8 degrés et il pleuvait des cordes. Et j'avais quand même mis un bonnet sous le casque. Et puis j'ai monté la Sierra Nevada, j'ai pas vu âme qui vive. J'étais, mais alors vraiment, toute seule sur la route. Même pas les animaux, ils étaient moins bêtes que moi, ils étaient à l'abri. J'ai senti que l'odeur des fleurs mouillées, qui était aussi d'ailleurs magnifique, hein, ça j'ai apprécié. Et alors tout d'un coup, quand j'ai vu les premiers villages blancs accrochés à une colline, alors que j'étais tout en haut de cette montagne, je me suis dit que nous étions bien des petites fourmis quand même sur Terre. Des toutes petites fourmis face à l'immensité de la nature, si seulement tout le monde pouvait en prendre conscience. Les alpinistes, ils doivent le savoir. Et la magistrale nature de la montagne, elle nous rend très humbles, vous savez, très humbles. La nature, elle aurait pu m'avaler, mais au premier coup de frein dans un virage enlacé. Mais non, je suis là. Et j'ai roulé à presque 60 km/h dans les descentes. Et puis, des fois, je me dis, mais c'est pas possible, j'avais un ange gardien au-dessus de moi, quoi. J'implorais mes parents, j'implorais réconcilier un petit peu avec Dieu, tout ça. J'y crois un peu, c'est plutôt lui qui croirait pour moi, mais bon, je pense avoir été aidée. C'est pas possible, parce que des fois, avec du recul, je me dis, mais ma pauvre fille, s'il fallait que tu recommences, est-ce que tu recommencerais? Peut-être, mais j'étais tellement motivée, j'en parlais depuis un an. Là, oui, je suis motivée pour aller voir le palais du facteur cheval dans la Drôme. J'irai sûrement, mais quand j'en sais rien, je vais attendre de me remettre, surtout la Covid, hein, tout ça. Je vais attendre que tout ça soit terminé. Oui, j'irai, puis peut-être que je ne m'arrêterai pas, peut-être que j'irai jusqu'en Italie, pourquoi pas. Oui. Quand je serai partie, parce qu'on ne peut plus s'arrêter. Quand on a commencé, on peut plus s'arrêter.
Effectivement. Et justement, donc vous le dites plusieurs fois que vous avez beaucoup chanté pendant ce voyage. Qu'est-ce que ça vous a apporté de chanter autant?
Ça m'a apporté. Hein, je sais pas. C'est comme, je sais pas comment vous dire. C'est une bouffée d'oxygène, une liberté. Je pouvais crier, je pouvais hurler. Personne ne m'entendait. Évidemment, quand je croisais des gens ou quand je passais dans une ville, j'allais m'abstenir parce que les pauvres. Bonjour les oreilles. Mais. Je ne sais pas, vous avez envie de crier. Je lisais les panneaux, vous savez, les panneaux qu'on rencontre sur la route. Je les lisais à voix haute parce que j'étais seule. J'ai même pas eu peur des panneaux qui annonçaient les chutes de pierre. Je filais, je me dis, ça ne peut pas m'arriver. En effet, j'avais raison, ça ne m'est pas arrivé du tout. Mais c'est quand je suis rentrée après dans la grande Malaga, là, quand je suis arrivée à mon terme, que je suis rentrée dans cette ville magnifique. J'avais le port sur la gauche, je roulais sous les palmiers à date. J'ai dit, je vais me perdre, c'est pas possible, rien du tout, pas de GPS, rien du tout. Et je vais me perdre. Et je suis arrivée tout à fait au bout de Malaga, et là, il y avait un rond-point. Puis j'ai dit, il faut que je trouve Torremolinos, parce que moi, j'ai mon fils qui a Benalmadena, il m'attendait à 20 km. Et j'ai tourné 4-5 fois autour du rond-point, rien. Puis là, y a un monsieur qui est arrivé. Je vous dis, j'ai des anges gardiens partout. Moi. Il est arrivé, je lui ai demandé, patron, c'est pas trop mal débrouillé en espagnol, et lui, un petit peu en français. Et j'ai retrouvé ma route, et là, je pédalais tout doucement, parce que j'avais peur d'arriver, j'avais peur que ce soit fini. Vous voyez, parce qu'après, quand il n'y a plus que les... Comment vous dire? Quand il n'y a plus que les images, quand il n'y a plus que les photos, quand il n'y a plus que les souvenirs, on n'a qu'une idée, c'est recommencer, c'est partir pour avoir une bouffée de liberté. voyez, parce que là, le vélo, il a fallu le mettre sur une voiture et puis rentrer. Et ça, ça me faisait terriblement mal, quoi. Je voyais cette mer, je me dis, mais oui, je suis là, d'autre côté, il y a le Maroc. Je suis arrivée, mais comment j'ai fait? D'habitude, j'y vais toujours en voiture ou en avion. Et là je l'ai fait à vélo, quoi. Mais c'est formidable, quoi.
Mais justement, c'est ce qui rend ces moments éphémères incroyables, c'est justement qu'ils soient éphémères.
Oui, puis quand j'arrive et puis que je vois mon fils, caméra au point, qui me dit « Maman, je suis fière de toi », mais ça c'est une phrase qui restera gravée à tout jamais. C'est beau de voir sa maman à 70 ans faire un circuit comme ça, puis l'attendre caméra au point avec le sourire jusqu'aux deux oreilles. Ça, je pense que c'était une belle chute. C'était une belle chute pour moi.
Vous avez parlé aussi des moments de détresse un peu ou des douleurs que vous avez eues. Comment est-ce que vous avez fait pour tenir jusqu'au bout?
Je pensais au but. Je pensais tout simplement au but et toujours l'espoir aussi de croiser des animaux. Moi, c'est mes meilleurs amis parce qu'ils me comprennent, ils sont fidèles avec moi. Et je me dis, je vais encore en voir des isards. En effet, j'en ai vu trois fois de suite. Je me demandais même si ce n'était pas les mêmes qui m'avaient remis sur le chemin. Je me dis, tiens, ils sont venus me dire au revoir. Parce que les derniers, je les ai vus avant d'arriver dans Malaga, dans une montagne. Et j'aurais pu les toucher, tellement ils étaient prêts. Et c'est vrai que je pensais beaucoup à ça. Alors, quand vous pensez à des choses comme ça, la douleur, j'ai l'impression qu'on l'oublie, ou elle vous oublie, enfin, on s'oublie mutuellement. Et puis, oui, j'ai eu des problèmes avec mon vélo, bien sûr, oui. J'ai eu des problèmes, même en France. Mon vélo, il avait les freins qui couinaient un peu. Et je me suis arrêtée dans le Pays Basque français. Le mec, il m'a pris 5 euros. Pourquoi? Rien. Il m'a accéléré là. Il m'a accentué la panne. Alors, je suis arrivée en Espagne. Je me suis arrêtée chez un marchand de vélo. Et puis, il me l'a réparé. Puis, quand je lui ai demandé cuánta es, il m'a dit nada, rien. Vous pouvez repartir. Alors, quand même, j'étais embêtée. Je lui ai mis 5 euros sur le comptoir pour qu'il aille boire une cerveza, une bière. Bah, là, que je me mets à parler espagnol. Pour qu'il boive une bière. Et puis le gars, bah, tout content, non, bah, tout compte fait, il m'a apporté des bidons d'eau pour mettre dans ma sacoche. Ils sont mais d'une générosité époustouflante, ces Espagnols. Je les adore. Je ne sais pas si dans un autre pays, je traversais quand même certains pays, hein, l'Allemagne, oui, bon, d'accord, le Portugal, l'Italie, je ne sais pas, peut-être que oui, je le ferai sûrement. Ouais, je le ferai sûrement, l'Italie. Ouais. Je ne parle pas trop l'italien, mais je le ferai sûrement.
Et du coup, justement, donc, vous aviez pour but de dépasser vos limites, de montrer que la maladie ne vous arrête pas, mais aussi de sensibiliser et attirer l'attention sur cette maladie. Est-ce que vous avez eu des retours qui vous font penser que cette sensibilisation est en marche, justement?
Mais pas trop. J'ai un site de polyarthrite, j'ai l'impression qu'ils l'ont fui, cette maladie. Ils avaient peut-être peur de lire des douleurs, peut-être. Hein. Par contre, j'ai eu beaucoup de personnes qui l'ont acheté, ce livre, parce qu'ils connaissent des gens qui sont atteints de cette polyarthrite, qui peut très bien, je sais pas, mais on a tellement des bons traitements maintenant qu'il y a des gens qui n'osent pas les prendre, ces bons traitements. Ils ont un peu peur. Ce sont des piqûres. Bon, vous savez, vous faites une petite piqûre par semaine et puis voilà, c'est tout. Hein. Et les gens ont peur de ce traitement. Il y en a trop qui ont peur de ce traitement parce qu'il y en a qui sont en fauteuil roulant, mais bon sang, mais s'ils avaient ce traitement-là, je ne peux pas dire le nom, je n'ai pas le droit, hein. Mais s'ils avaient ce traitement en piqûre, moi, je pense qu'ils vivraient comme moi. Mais je fais tout, je fais de la marche, je fais du vélo tous les soirs, la nuit, dans la forêt de Larçay. C'est bon, ça fait monter le trop d'adrénaline. Vous voyez, mais je fais plein de choses. Moi, je n'ai pas des gens qui ont une PR, comme moi, on dit une PR, polyarthrite rhumatoïde, qui seraient prêtes à me suivre. Et ça, c'est vraiment dommage, quoi. C'est vraiment dommage. J'arrive pas à les sensibiliser encore. Non, j'arrive pas.
Est-ce que, justement, pour éclairer certains, vous pourriez expliquer avec vos propres mots en quoi consiste cette maladie?
Alors, cette maladie, comment je vais pouvoir vous expliquer ça en quelques mots? Parce que ça serait tellement long à l'expliquer complètement, puis là, bon, on est pendant une émission de médecine, donc voilà. Hein, c'est, comment je vais vous dire ça? C'est une maladie inflammatoire qui est chronique, on l'appelle l'arthrite chronique. Elle fait partie de ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Hein, c'est une maladie auto-immune qui agresse le corps. C'est une maladie aussi du système n'atteignant pas uniquement, hélas, les articulations. Ça peut être les yeux, le glaucome. La peau, moi j'ai eu de la chance, le muscle cardiaque, ah oui, le cœur, des fois il peut en prendre un coup. Là, vous voyez, je l'ai sollicité, pourtant il a tenu le coup, hein, costaud. Les poumons aussi, il peut atteindre les poumons, et j'en passe sûrement. Mais en fait, on a trop d'anticorps, mais pas d'anticorps comme il nous en faudrait pour le Covid, là. Des anticorps qui viennent agresser nos articulations. Donc les articulations, elles manquent de graisse, elles couinent un peu. En fait, on est craquantes, quoi.
Et merci beaucoup pour ces précisions. Alors justement, on va finir cette interview. Donc je vous cite parce que vous l'avez déjà évoqué, vous avez dit « J'ai compris que l'être humain était une toute petite fourmi, la montagne nous rend humbles, la nature est puissante. » Est-ce que c'est la conclusion que vous tirez de votre voyage ?
Je tire aussi cette conclusion-là. Je tire la conclusion d'avoir côtoyé aussi l'amitié des gens. Je conclue que l'Espagne, je suis désolée de le redire, mais elle est plus accueillante que la France, ça c'est clair. J'ai rien à dire sur la France, quoi. Une chance que je suis arrivée à Orthez, où il y avait mon imprimeur, où j'ai pu en fait parler avec des gens, à part une femme qui m'a dit « Oh, mon fils, il a 10 ans de vélo. » Je dis « Quel âge il a ?» Elle me dit « Il a 30 ans. »« Bien, madame. » Et bien, je dis « Écoutez, quand il aura mon âge, il essaiera de faire 2000 km. On verra bien. » Alors, j'en conclus que j'ai rencontré des imbéciles, mais j'ai rencontré des gens charmants, beaucoup plus de gens charmants que d'imbéciles. Oui, donc, il faut quand même, je pense que... Il faut oser, voilà, c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure, oser, c'est faire un grand pas dans l'évolution, il faut oser. Il faut toujours oser, il ne faut pas avoir peur de qu'est-ce qui va m'arriver. Si ça arrive, ça arrive, on se débrouille, moi je me suis débrouillée. Puis si ça n'arrive pas, tant mieux. Ne jamais oublier d'avoir des bouteilles d'eau, ne jamais oublier d'avoir son portable toujours chargé, et puis roule ma poule, quoi, comme on dit, c'est ça. Quoi. Ma conclusion, c'est que je suis prête à recommencer, surtout, donc ça ne sera pas une conclusion, ça serait un démarrage.
Ce serait une suite, exactement. Et en tout cas, merci beaucoup Michel Mialot d'être venu nous parler de votre livre qui est en vente. Donc je rappelle le titre « Mimi et Coquelicot, un défi contre la polyarthrite ».
Alors en vente à la FNAC et puis à la boîte à livres en Touraine, mais il est aussi dans toute la France. Quoi. Il est référencé dans toute la France. On peut même le trouver en Belgique aussi, on peut même le trouver au Canada.
Donc oui, il est facile d'accès.
Il est facile d'accès.
Merci beaucoup.
Aux éditions de La Morelle.
D'accord, merci beaucoup de l'avoir précisé.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, Chloé.
Il n'y a pas de souci, c'était avec grand plaisir.